Chapitre 12. Comment, après avoir reçu des nouvelles du midi, Henri en reçut du nord. Les deux compères. Le roi, au comble de l'exaspération, put à peine lire la lettre que Chicot venait de lui donner. Pendant qu'il déchiffrait le latin du Béarnais avec des crispations d'impatience qui faisaient trembler le parquet, Chicot, devant un grand miroir de Venise suspendu au-dessus d'un dressoir d'orfèvrerie, admirait sa tenue et les grâces infinies que sa personne avait prises sous l'habit militaire. Infini était le mot, car jamais Chicot n'avait paru si grand. Sa tête, un peu chauve, était surmontée d'une salade conique dans le genre de ces armets allemands que l'on ciselait si curieusement à Trèves et à Mayence. Et il était occupé pour le moment à replacer sur son buffle, graissé par la sueur et le frottement des armes, une demi-cuirasse de voyage que, pour déjeuner, il avait posée sur un buffet. En outre, tout en rebouclant sa cuirasse, il faisait sonner sur le parquet des éperons plus capables d'éventrer que d'éperonner un cheval. « Oh, je suis trahi !» s'écria Henri lorsqu'il eut achevé la lecture. « Le Béarnais avait un plan et je ne l'en ai pas soupçonné !»« Mon fils, répliqua Chicot, tu connais le proverbe, il n'est pirot que l'eau qui dort. Va-t'en au diable avec tes proverbes !» Chicot s'avança vers la porte comme pour obéir. « Non, reste !» Chicot s'arrêta. « Cahors pris !» continua Henri. « Et de la bonne façon même, » dit Chicot. « Mais il a donc des généraux, des ingénieurs ?»« Nenni, » dit Chicot. « Le Béarnais est trop pauvre. Comment les paierait-il ? » ?»« Non pas, il fait tout lui-même. »« Et il se bat ?» dit Henri avec une sorte de dédain. Te dire qu'il s'y met tout d'abord et d'enthousiasme, non, je n'oserais pas, non. Il ressemble à ces gens qui tâtent l'eau avant de se baigner. Il se mouille le bout des doigts dans une petite sueur de mauvais augure, se prépare la poitrine avec quelques mea culpa, le front avec quelques réflexions philosophiques. Cela lui prend les 10 premières minutes qui suivent le premier coup de canon. Après quoi, il donne une tête dans l'action et nage dans le plomb fondu et le feu comme une salamandre. Diable, fit Henri, diable. Et je t'assure, Henri, qu'il y faisait chaud là-bas. Le roi se leva précipitamment et arpenta la salle à grands pas. Voilà un échec pour moi, s'écria-t-il, en terminant tout haut sa pensée commencée tout bas. On en rira, je serai chansonné. Ces coquins de Gascon sont caustiques, et je les entends déjà aiguisant leurs dents et leurs sourires sur les horribles airs de leur musette. Ah, mordieu! Heureusement que j'ai eu l'idée d'envoyer à François ce secours tant demandé. Anvers me fera compenser Cahors. Le Nord effacera les fautes du midi. « Amen !» dit Chicot, en plongeant délicatement, pour achever son dessert, le bout de ses doigts dans les drageoires et dans les compotiers du roi. En ce moment, la porte s'ouvrit et l'huissier annonça « Monsieur le comte du bouchage !»« Ah ! » s'écria Henri, « je te le disais bien, Chicot, voilà ma nouvelle qui arrive. Entrez, comte, entrez !» L'huissier démasqua la porte et l'on vit apparaître dans le cadre de cette porte, à la portière tombant à demi, le jeune homme qu'on venait d'annoncer, pareil à un portrait à empier d'Holbein ou du Titien. Il s'avança lentement et fléchit le genou au milieu du tapis de la chambre. « Toujours pâle, lui dit le roi, toujours lugubre. Voyons, mon ami, pour un moment, prends ton visage de Pâques. » « Et ne me dis pas de bonnes choses avec un mauvais air. Parle vite du bouchage, parce que j'ai soif de ton récit. Tu viens de Flandre, mon fils. »« Oui, sire. Et lestement à ce que je vois. » »« Sire, aussi vite qu'un homme peut marcher sur la terre. » »« Sois le bienvenu, Anvers. Où en est Anvers ?»« Anvers appartient au prince d'Orange, sire. »« Au prince d'Orange? Qu'est-ce que c'est que cela ?»« À Guillaume, si vous l'aimez mieux. » « Ah ça, mais et mon frère ne marche-t-il pas sur Anvers ?»« Oui, sire, mais maintenant ce n'est plus sur Anvers qu'il marche, c'est sur Château-Thierry. »« Il a quitté l'armée ?»« Il n'y a plus d'armée, sire. » »« Oh !» fit le roi en faiblissant les genoux et en retombant dans son fauteuil. « Mais joyeuse !»« Sire, Mon frère, après avoir fait des prodiges avec ses marins, après avoir soutenu toute la retraite, mon frère a rallié le peu d'hommes échappés au désastre et a fait avec eux une escorte à monsieur le duc d'Anjou. Une défaite, murmura le roi. Puis tout à coup, avec un éclair étrange dans le regard, alors les Flandres sont perdues pour mon frère, absolument, sire. Sans retour, je le crains. Le front du prince s'éclaircit graduellement, comme sous le jour d'une pensée intérieure. Ce pauvre François, dit-il en souriant, il a du malheur en couronne. Il a manqué celle de Navarre. Il a étendu la main vers celle d'Angleterre, il a touché celle de Flandre, gageons du bouchage qu'il ne régnera jamais. Pauvre frère, lui qui en a tant envie. Eh mon Dieu, c'est toujours comme cela quand on a envie de quelque chose, dit Chicot d'un ton solennel. Et combien de prisonniers? Demanda le roi. 2 000 à peu près. Combien de morts? Autant au moins. Monsieur de Saint-Aignan est du nombre. Comment, il est mort, ce pauvre Saint-Aignan? Noyé. Noyé? Comment, vous vous êtes donc jeté dans l'Escaut? Non pas, c'est l'Escaut qui s'est jeté sur nous. Le comte fit alors au roi un récit exact de la bataille et de l'inondation. Henri l'écouta d'un bout à l'autre, avec une pause, un silence et une physionomie qui ne manquaient pas de majesté. Puis, lorsque le récit fut fini, il se leva et alla s'agenouiller devant le prie-Dieu de son oratoire, fit son oraison et un instant après revint avec un visage parfaitement rasséréné. Là, dit-il, j'espère que je prends les choses en roi. Un roi soutenu par le Seigneur est réellement plus qu'un homme. Voyons, comte, imitez-moi, et puisque votre frère est sauvé, comme le mien, Dieu merci, eh bien, déridons-nous un peu. Je suis à vos ordres, sire. Que veux-tu pour prix de tes services, du bouchage? Parle. Sire, dit le jeune homme en secouant la tête, je n'ai rendu aucun service. Oh, je le conteste, mais en tout cas ton frère en a rendu. D'immenses, sire. Il a sauvé l'armée, dis-tu, ou plutôt les débris de l'armée. Il n'y a pas dans ce qu'il en reste un seul homme qui ne vous dise qu'il doit la vie à mon frère. Eh bien, du bouchage, ma volonté est d'étendre mon bienfait sur vous deux, et j'imiterai en cela le Seigneur Tout-Puissant qui vous a protégés d'une façon si visible en vous faisant tous deux pareils, c'est-à-dire riches, braves et beaux. En outre, j'imiterai ces grands politiques si bien inspirés toujours, lesquels avaient pour coutume de récompenser les messagers de mauvaises nouvelles. Allons donc, dit Chicot, je connais des exemples de messagers pendus pour avoir été porteurs de mauvais messages. C'est possible, dit majestueusement Henri, mais il y a le Sénat qui a remercié Varron. Tu me cites des républicains, Valois, Valois, le malheur te rend humble. Voyons, du bouchage, que veux-tu, que désires-tu? Puisque votre majesté me fait l'honneur de me parler si affectueusement, j'oserais mettre à profit sa bienveillance. Je suis las de la vie, sire, et cependant j'ai répugnance à abréger ma vie, car Dieu le défend. Tous les subterfuges qu'un homme d'honneur emploie en pareil cas sont des péchés mortels. Se faire tuer à l'armée, se laisser mourir de faim, oublier de nager quand on traverse un fleuve, ce sont des travestissements de suicide au milieu desquels Dieu voit parfaitement clair, car vous savez, sire, nos pensées les plus secrètes sont à jour devant Dieu. Je renonce donc à mourir avant le terme que Dieu a fixé à ma vie, mais le monde me fatigue et je sortirai du monde. Mon ami, fit le roi. Chicot leva la tête et regarda avec intérêt ce jeune homme si beau, si brave, si riche, et qui cependant parlait d'une voix si désespérée. Sire, continua le comte avec l'accent de la résolution, tout ce qui m'arrive depuis quelque temps fortifie en moi ce désir. Je veux me jeter dans les bras de Dieu, souverain consolateur des affligés, comme il est en même temps souverain maître des heureux de la terre. Daignez donc, sire, me faciliter les moyens d'entrer promptement en religion, car ainsi que dit le prophète, mon cœur est triste comme la mort. Chicot, le railleux personnage, interrompit un instant la gymnastique incessante de ses bras et de sa physionomie pour écouter cette douleur majestueuse qui parlait si noblement, si sincèrement, par la voix la plus douce et la plus persuasive que Dieu ait jamais donnée à la jeunesse et à la beauté. Son œil brillant s'éteignit en reflétant le regard désolé du frère de Joyeuse. Tout son corps s'étendit et s'affaissa par la sympathie de ce découragement qui semblait avoir non pas détendu, mais tranché chaque fibre du corps de Dubouchage. Le roi lui aussi avait senti son cœur fondre à l'audition de cette douloureuse requête. « Ah, je comprends, ami, dit-il, tu veux entrer en religion, mais tu te sens homme encore et tu crains les épreuves. » « Je ne crains pas les austérités, sire, mais pour le temps qu'elles laissent à l'indécision. Non, non, ce n'est point pour adoucir les épreuves qui me seront imposées, car j'espère ne rien retirer à mon corps des souffrances physiques, à mon esprit des privations morales. C'est pour enlever à l'un ou à l'autre tout prétexte de revenir au passé. C'est pour faire, en un mot, jaillir de la terre cette grille qui doit me séparer à jamais du monde et qui, d'après les règles ecclésiastiques, d'ordinaire pousse lentement comme une haie d'épines. » « Pauvre garçon, dit le roi, qui avait suivi le discours de Dubouchage en scandant, pour ainsi dire, chacune de ses paroles, pauvre garçon, je crois qu'il fera un bon prédicateur, n'est-ce pas, Chico ? » Chico ne répondit rien. Dubouchage continua. « Vous comprenez, sire, que c'est dans ma famille même que s'établira la lutte. C'est dans mes proches que je trouverai la plus rude opposition. Mon frère le cardinal, si bon en même temps qu'il est si mondain, cherchera mille raisons de me faire changer d'avis. Et s'il ne réussit point à me persuader, comme j'en suis sûr, il s'attaquera aux impossibilités matérielles et m'allégera Rome qui met des délais entre chaque degré des ordres. Là, votre majesté est toute puissante. Là, je reconnaîtrai la force du bras que votre majesté veut bien étendre sur ma tête. Vous m'avez demandé ce que je désirais, sire. Vous m'avez promis de satisfaire à mon désir. Mon désir, vous le voyez, est tout en Dieu. Obtenez de Rome que je sois dispensé du noviciat. » Le roi, de rêveur qu'il était, se releva souriant et prenant la main du comte. « Oh, je ferai ce que tu me demandes, mon fils, lui dit-il. Tu veux être à Dieu, tu as raison, c'est un meilleur maître que moi. » « Bon compliment que tu lui fais, là, murmura Chico entre sa moustache et ses dents. « Eh bien, soit, continua le roi, tu seras ordonné selon tes désirs, cher comte, je te le promets. » « Et votre majesté me comble de joie !» s'écria le jeune homme en baisant la main de Henri avec autant de joie que s'il eût été fait duc, pair ou maréchal de France. Ainsi, ces choses dites. « Parole de roi, foi de gentilhomme, » dit Henri. La figure de Dubouchage s'éclaira. Quelque chose comme un sourire d'extase passa sur ses lèvres. Il salua respectueusement le roi et disparut. « Ah, voilà un heureux, un bienheureux jeune homme !» s'écria Henri. « Bon, s'écria Chico, tu n'as rien à lui envier, ce me semble. Il n'est pas plus lamentable que toi, sire. Mais comprends donc, Chico, comprends donc, il va être moine, il va se donner au ciel. Qui diable t'empêche d'en faire autant ? Il demande des dispenses à son frère le cardinal, mais j'en connais un cardinal, moi, qui te donnera toutes les dispenses nécessaires. » Il est encore mieux que toi avec Rome, celui-là. Tu ne le connais pas? C'est le cardinal de Guise. Chico! Et si la tonsure t'inquiète, car enfin, c'est une opération délicate que celle de la tonsure, les plus jolies mains du monde, les plus jolis ciseaux de la rue de la Coutellerie, des ciseaux d'or, ma foi, te donneront ce précieux symbole qui portera au chiffre 3 le nombre des couronnes que tu auras portées et qui justifiera la devise « Manet ultima caelo ». De jolies mains, dis-tu? Eh bien, voyons, est-ce que tu vas dire par hasard du mal des mains de Madame la Duchesse de Montpensier, après en avoir dit de ses épaules? Quel roi tu fais et quelle sévérité tu montres à l'endroit de tes sujettes! » Le roi fronça le sourcil et passa sur ses tempes une main aussi blanche que celle dont on lui parlait, mais plus tremblante assurément. Voyons, voyons, dit Chicot, laissons tout cela, car je vois du reste que la conversation t'ennuie, et revenons aux choses qui m'intéressent personnellement. Le roi fit un geste moitié indifférent, moitié approbatif. Chicot regarda autour de lui, faisant marcher son fauteuil sur les deux pieds de derrière. Voyons, dit-il à demi-voix, réponds, mon fils, ces messieurs de Joyeuse sont partis comme cela pour les Flandres. D'abord, que veut dire ton comme cela? Il veut dire que ce sont des gens si âpres, l'un au plaisir, l'autre à la tristesse, qu'il me paraît surprenant qu'ils aient quitté Paris sans faire un peu de vacarme, l'un pour s'amuser, l'autre pour s'étourdir. Eh bien, comme tu es de leurs meilleurs amis, tu dois savoir comment ils s'en sont allés. Sans doute que je le sais. Alors dis-moi, Henriquet, as-tu entendu dire? Chico s'arrêta. Quoi? Qu'ils aient battu quelqu'un de considérable, par exemple. Je ne l'ai pas entendu dire. Ont-ils enlevé quelques femmes avec effraction et pistolade? Pas que je sache. Ont-ils brûlé quelque chose par hasard? Quoi? Que sais-je, moi, ce qu'on brûle pour se distraire quand on est grand seigneur, la maison d'un pauvre diable, par exemple. Es-tu fou, Chicot, brûler une maison dans ma ville de Paris? Est-ce que l'on oserait se permettre d'y faire de ces choses-là? Ah oui, l'on se gêne. Chicot. Enfin, ils n'ont rien fait dont tu aies entendu le bruit ou vu la fumée. Ma foi, non. Ah, tant mieux, dit Chicot, respirant avec une sorte de facilité qu'il n'avait pas eue pendant tout le temps qu'avait duré l'interrogatoire qu'il venait de faire subir à Henri. Sais-tu une chose, Chicot? Dit Henri. Ah non, je ne la sais pas. C'est que tu deviens méchant. Moi? Oui, toi. Le séjour de la tombe m'avait édulcoré, grand roi, mais ta présence me suerit, omnia leto putrescunt. C'est-à-dire que je suis moisi, fit le roi. Un peu, mon fils, un peu. Vous devenez insupportable, Chicot, et je vous attribue des projets d'intrigue et d'ambition que je croyais loin de votre caractère. Des projets d'ambition, à moi, Chicot, ambitieux. Henriquet, mon fils, si tu n'étais que niais, tu deviens fou, il y a progrès. Et moi je vous dis, monsieur Chicot, que vous voulez éloigner de moi tous mes serviteurs en leur supposant des intentions qu'ils n'ont pas, des crimes auxquels ils n'ont pas pensé. Je dis que vous voulez m'accaparer, enfin. T'accaparer, moi, s'écria Chicot, t'accaparer, pourquoi faire? Dieu m'en préserve, tu es un être trop gênant, Bonédéus, sans compter que tu es difficile à nourrir en diable. Oh non, non, par exemple. Hum, fit le roi. Voyons, explique-moi d'où te vient cette idée cornue. Vous avez commencé par écouter froidement mes éloges à l'endroit de mon ancien ami, Dom Modeste, à qui vous devez beaucoup. Ah, moi, je dois beaucoup à Dom Modeste. Bon, bon, bon. Mais après? Après, vous avez essayé de me calomnier mes Joyeuses, deux amis véritables, ceux-là. Je ne dis pas non. Ensuite, vous avez lancé votre coup de griffe sur les Guises. Ah, tu les aimes à présent, ceux-là aussi. Ah, tu es dans ton jour d'aimer tout le monde, à ce qu'il paraît. Non, je ne les aime pas. Mais comme en ce moment ils se tiennent coi et couverts, comme en ce moment ils ne me font pas le moindre tort, comme je ne les perds pas un instant de vue, que tout ce que je remarque en eux, c'est toujours la même froideur de marbre, et que je n'ai pas l'habitude d'avoir peur des statues, si menaçantes qu'elles soient, je m'en tiens à celles dont je connais le visage et l'attitude. Vois-tu, Chicot, un fantôme, lorsqu'il est devenu familier, n'est plus qu'un compagnon insupportable. Tous ces guises, avec leurs regards effarouchés et leurs grandes épées, sont les gens de mon royaume qui, jusqu'aujourd'hui, m'ont fait le moins de tort. Et ils ressemblent, veux-tu que je te dise à quoi? Dis, Henriquet, tu me feras plaisir. Tu sais bien que tu es plein de subtilité dans les comparaisons. Il ressemble à ces perches que l'on lâche dans les étangs pour donner la chasse aux gros poissons et les empêcher d'engraisser par trop. Mais suppose un instant que les gros poissons n'en aient pas peur. Eh bien, elles n'ont pas assez de bonnes dents pour entamer leurs écailles. Oh, Henri, mon enfant, que tu es subtil. tandis que ton Béarnais. Hein, voyons, as-tu aussi une comparaison pour le Béarnais? Tandis que ton Béarnais, qui miaule comme un chat, mord comme un tigre. Sur ma vie, dit Chicot, voilà Valois qui pourlèche Guise. Allons, allons, mon fils, tu es en trop bonne voie pour t'arrêter. Divorce tout de suite et épouse madame de Montpensier. Tu auras au moins une chance avec elle. Si tu ne lui fais pas d'enfant, elle t'en fera. N'a-t-elle pas été amoureuse de toi dans le temps? Henri se rengorgea. Oui, dit-il, mais j'étais occupé ailleurs. Voilà la source de toutes ces menaces. Chicot, tu as mis le doigt dessus. Elle a contre moi une rancune de femme et elle m'agace de temps en temps. Mais heureusement, je suis homme et je n'ai qu'à en rire. Henri achevait ses paroles en relevant son col rabattu à l'italienne quand l'huissier Nambu cria du seuil de la porte « Un messager de monsieur le duc de Guise pour sa majesté ». « Est-ce un courrier ou un gentilhomme ?» demanda le roi. « C'est un capitaine, sire. »« Ah, par ma foi, qu'il entre, il sera le bienvenu. » En même temps, un capitaine de gendarme entra, vêtu de l'uniforme de campagne, et fit le salut accoutumé. Chicot, à cette annonce, s'était assis, et selon son habitude, tournait impertinemment le dos à la porte, et son œil à demi voilé se plongeait dans une de ces méditations intérieures qui lui étaient si habituelles, quand les premiers mots que prononça le messager de Guise le firent tressaillir. En conséquence, il rouvrit l'œil. Heureusement, ou malheureusement, le roi, occupé du nouveau venu, ne fit point attention à cette manifestation toujours effrayante de la part de Chicot. Le messager se trouvait placé à 10 pas du fauteuil dans lequel Chicot s'était blotti, et comme le profil de Chicot dépassait à peine les garnitures du fauteuil, l'œil de Chicot voyait le messager tout entier, tandis que le messager ne pouvait voir que l'œil de Chicot. « Vous venez de la Lorraine ?» demanda le roi à ce messager, dont la taille était assez noble et la mine assez guerrière. « Non pas, sire, mais de Soissons, où monsieur le duc, qui n'a pas quitté cette ville depuis un mois, m'a remis cette lettre que j'ai l'honneur de déposer au pied de votre majesté. » L'œil de Chicot étincelait et ne perdit pas un geste du nouveau venu, comme ses oreilles n'en perdaient pas une parole. Le messager ouvrit son buffle fermé par des agrafes d'argent et tira d'une poche de cuir doublée de soie, placée sur le cœur, non pas une lettre mais 2 lettres, car l'une entraîna l'autre, à laquelle elle s'était attachée par la cire de son cachet, de sorte que, comme le capitaine n'en tirait qu'une, la seconde ne tomba pas moins sur le tapis. L'œil de Chicot suivit cette lettre au vol comme l'œil du chat suit le vol de l'oiseau. Il vit aussi, à la chute inattendue de cette lettre, la rougeur se répandre sur les joues du messager, son embarras pour la ramasser et comme pour donner la première au roi. Mais Henri ne vit rien, lui. Henri, modèle de confiance, c'était son heure, ne fit attention à rien. Il ouvrit seulement celle des 2 lettres qu'on voulait bien lui offrir et lut. De son côté, le messager, voyant le roi absorbé dans sa lecture, s'absorba dans la contemplation du roi, sur le visage duquel il semblait chercher le reflet de toutes les pensées que cette intéressante lecture pouvait faire naître dans son esprit. « Ah, maître Borromée !» murmura Chicot, en suivant de son côté des yeux chaque mouvement du fidèle de monsieur de Guise. « Ah, tu es capitaine, et tu ne donnes qu'une lettre au roi quand tu en as 2 dans ta poche. Attends, mon mignon, attends. »« Ah, c'est bien, » fit le roi, en relisant chaque ligne de la lettre du duc avec une satisfaction visible. « Allez, capitaine, allez, et dites à monsieur de Guise que je suis reconnaissant de l'offre qu'il me fait. »« Votre majesté ne m'honore point d'une réponse écrite ?» demanda le messager. « Non, je le verrai dans 1 mois ou 6 semaines, par conséquent, je le remercierai moi-même. Allez !» Le capitaine s'inclina et sortit de l'appartement. « Tu vois bien, Chicot, » dit alors le roi à son compagnon qu'il croyait toujours dans le fond de son fauteuil, « tu vois bien, monsieur de Guise est pur de toute machination. Oh, ce brave duc, il a su l'affaire de Navarre, il craint que les Huguenots ne s'enhardissent et ne relèvent la tête, car il a appris que les Allemands veulent déjà envoyer du secours au roi de Navarre. Or, que fait-il ? Devine ce qu'il fait. Chico ne répondit point. Henri crut qu'il attendait l'explication. Eh bien, continua-t-il, il m'offre l'armée qu'il vient de lever en Lorraine pour surveiller les Flandres, et il me prévient que, dans 6 semaines, cette armée sera toute à ma disposition avec son général. Et que dis-tu de cela, Chico? Silence absolu de la part du Gascon. En vérité, mon cher Chico, continua le roi, tu as cela d'absurde, mon ami, que tu es entêté comme une mule d'Espagne, et que si on a le malheur de te convaincre de quelque erreur, ce qui arrive souvent, tu boudes, oui, tu boudes comme un sot que tu es. Pas un souffle ne vint contredire Henri dans l'opinion qu'il venait de manifester de façon si franche sur son ami. Il y avait quelque chose qui déplaisait plus encore à Henri que la contradiction, c'était le silence. Je crois, dit-il, que le drôle a eu l'impertinence de s'endormir. Chico, continua-t-il en s'avançant vers le fauteuil, ton roi te parle, veux-tu lui répondre? Mais Chico ne pouvait répondre, attendu qu'il n'était plus là, et Henri trouva le fauteuil vide. Ses yeux parcoururent toute la chambre. Le Gascon n'était pas plus dans la chambre que dans le fauteuil. Son casque avait disparu, comme lui et avec lui. Le roi fut saisi d'une sorte de frisson superstitieux. Il lui passait quelquefois par l'esprit que Chico était un être surhumain, quelque incarnation diabolique, de la bonne espèce, c'est vrai, mais diabolique enfin. Il appela Nambu. Nambu n'avait rien de commun avec Henri, c'était un esprit fort, au contraire, comme le sont en général ceux qui gardent les antichambres des rois. Il croyait aux apparitions et aux disparitions, lui qui en avait tant vu, mais aux apparitions et aux disparitions des êtres vivants, et non des spectres. Nambu assura positivement à Sa Majesté avoir vu Chico sortir 5 minutes avant la sortie de l'employé de Monseigneur le duc de Guise. Seulement, il sortait avec la légèreté et les précautions d'un homme qui ne voulait pas qu'on le vît sortir. Décidément, fit Henri en passant dans son oratoire, Chico s'est fâché d'avoir eu tort. Ah, que les hommes sont mesquins, mon Dieu! Oh, je dis cela pour tous et même pour les plus spirituels. Maître Nambu avait raison. Chico, coiffé de sa salade et raidi par sa longue épée, avait traversé les antichambres sans grand bruit, mais quelques précautions qu'il prit, il lui avait bien fallu laisser sonner ses éperons sur les degrés qui conduisaient des appartements au guichet du Louvre, bruit qui avait fait retourner beaucoup de monde et avait valu à Chico force salut, car on savait la position de Chico près du roi. Et beaucoup saluaient Chico plus bas qu'ils n'eussent salué le duc d'Anjou. Dans un angle du guichet, Chico s'arrêta, comme pour rattacher un éperon. Un capitaine de Monsieur de Guise, nous l'avons dit, était sorti 5 minutes à peine après Chico, auquel il n'avait prêté aucune attention. Il avait descendu les degrés et avait traversé les cours, fier et enchanté à la fois. Fier parce qu'à tout prendre, il n'était point un soldat de mauvaise mine et qu'il se plaisait à faire parader ses grâces devant les Suisses et les gardes de Sa Majesté très chrétienne. Enchanté parce que le roi l'avait accueilli de façon à prouver qu'il n'avait aucun soupçon contre Monsieur de Guise. Au moment où il franchissait le guichet du Louvre et où il traversait le pont-levis, il fut réveillé par un cliquetis d'éperon qui semblait être l'écho des siens. Il se retourna, pensant que le roi faisait peut-être courir après lui, et grande fut sa stupéfaction en reconnaissant, sous les pointes retroussées de sa salade, le visage bénin et la physionomie chatemite du bourgeois Robert Briquet, sa damnée connaissance. On se rappelle que le premier mouvement de ces deux hommes à l'égard l'un de l'autre n'avait pas été précisément un mouvement de sympathie. Borromée ouvrit sa bouche d'un demi-pied carré, comme dit Rabelais, et croyant voir que celui qui le suivait désirait avoir affaire à lui, il suspendit sa marche, de sorte que Chico l'eût rejoint en 2 enjambées. On sait au reste quelles enjambées c'étaient que celles de Chico. Corbeuf, dit Borromée, ventre de biche, s'écria Chico. Mon doux bourgeois, mon révérend père, avec cette salade. Sous ce buffle. C'est merveille pour moi de vous voir, c'est satisfaction pour moi de vous rejoindre. » Et les deux fiers à bras se regardèrent pendant quelques secondes avec l'hésitation hostile de deux coqs qui vont se quereller et qui, pour s'intimider l'un l'autre, se dressent sur leurs ergots. Borromée fut le premier qui passa du grave au doux. Les muscles de son visage se détendirent et, avec un air de franchise guerrière et d'aimable urbanité. Vive Dieu, dit-il, vous êtes un rusé compère, maître Robert Briquet. Moi, mon révérend, répondit Chicot, et à quelle occasion me dites-vous cela, je vous prie? À l'occasion du couvent des Jacobins, où vous m'avez fait croire que vous n'étiez qu'un simple bourgeois. Il faut en vérité que vous soyez 10 fois plus retors et plus vaillant qu'un procureur et un capitaine tout ensemble. » Chicot sentit que le compliment était fait des lèvres et non du cœur. « Ah, répondit-il avec bonhomie, et que devons-nous dire de vous, seigneur Borromée ?»« De moi ? » ?»« Oui, de vous. » »« Et pourquoi ?»« Pour m'avoir fait croire que vous n'étiez qu'un moine, il faut en vérité que vous soyez 10 fois plus retors que le pape lui-même. » « Compère, je ne vous déprécie point en disant cela, car le pape d'aujourd'hui est, convenez-en, un rude éventeur de mèches. » « Pensez-vous ce que vous dites ?» demanda Borromée. « Ventre de biche, est-ce que je mange jamais, moi ?»« Eh bien, touchez-la !» Et il tendit la main à Chicot. « Ah, vous m'avez malmené au couvent, frère capitaine, » dit Chicot. « Je vous prenais pour un bourgeois, mon maître, et vous savez bien le souci que nous avons des bourgeois, nous autres, gens d'épée. » C'est vrai, dit Chicot en riant, c'est comme des moines, et cependant, vous m'avez pris au piège. Au piège? Sans doute, car sous ce déguisement, vous tendiez un piège. Un brave capitaine comme vous ne troque point sans raison sa cuirasse contre un froc. Avec un homme d'épée, dit Borromée, je n'aurai pas de secret. Eh bien oui, j'ai certains intérêts personnels dans le couvent des Jacobins, mais vous? Moi aussi, dit Chicot, mais chut! Ah, causons un peu de tout cela, voulez-vous? Sur mon âme, j'en brûle. Aimez-vous le bon vin? Oui, quand il est bon. Eh bien, je connais un petit cabaret sans rival, selon moi, dans Paris. Et j'en connais un aussi, dit Chicot. Comment s'appelle le vôtre? La Corne d'Abondance. Ah, fit Chicot en tressaillant. Eh bien, que se passe-t-il donc? Rien. Avez-vous quelque chose contre ce cabaret? Non pas, au contraire. Vous le connaissez? Pas le moins du monde, je m'en étonne. Vous plaît-il que nous y marchions, compère? Comment donc, tout de suite? Allons donc. Où est-ce? Du côté de la porte Bourdelle. L'hôte est un vieux dégustateur et qui sait parfaitement apprécier la différence qu'il y a entre le palais d'un homme comme vous et le gosier d'un passant altéré. C'est-à-dire que nous pourrons y causer à l'aise? Dans la cave, si nous voulons. Et sans être dérangés, nous fermerons les portes. Allons, dit Chicot, je vois que vous êtes homme de ressources et aussi bien vu dans les cabarets que dans les couvents. Croiriez-vous que j'ai des intelligences avec l'hôte? Cela m'en a tout l'air. Ma foi, non, et cette fois, vous êtes dans l'erreur. Maître Bonhomé me vend du vin quand je veux et je le paie quand je veux, voilà tout. Bonhomé, dit Chicot, sur ma parole, voilà un nom qui promet. Et qui tient? Venez, compère, venez. Oh, se dit Chicot en suivant le faux moine, c'est ici qu'il faut faire un choix parmi tes meilleures grimaces, ami Chicot, car si Bonhomé te reconnaît tout de suite, c'est fait de toi et tu n'es qu'un sot.